Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Je me suis rendu au lieu dit Gorée-Bodivi à Plomelin. Si vous êtes adepte d'archéologie ou de termes romains, ce lieu vous est peut-être familier, car c'est là-bas que les termes romains du Pérennou ont été restaurés en 2006. Si vous ne savez pas ce que sont les thermes, c'est très simple. Les thermes sont un établissement de bains chauds très courant dans l'Antiquité. Mais aujourd'hui, il est question de villa. J'ai pu interviewer des personnes qui participent à la fouille de cette villa gallo-romaine.
Moi, c'est Monsieur Dieu, Johan. Je suis archéologue au conseil départemental du Finistère. Et là, sur la fouille de la villa gallo-romaine du Pérennou, je suis l'adjoint de Jean-Charles Aramon. Donc, qui anciennement travaillait au service régional de l'archéologie, donc qui est aujourd'hui à la retraite. Pour faire un petit peu l'historique du site et de ce pourquoi on est là aujourd'hui. En gros, en 2008, on a fouillé les thermes du Pérennou qui sont au bord de l'Audet, donc à 600 mètres plus bas de là où on se trouve actuellement. Ils ont été restaurés en 2006 et donc comme c'est un complexe qui fonctionne avec la villa qu'on a sous les yeux, on a décidé donc en 2013 de procéder à un diagnostic archéologique dans la parcelle, donc dans le champ sur lequel se trouve la villa. Et puis en 2014, on a commencé en fait la première année de fouille. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on est arrivé, la villa ressemblait au bosquet qu'on a dans le champ qui est juste derrière. C'est une villa un peu particulière dans le sens où elle a déjà été fouillée au 19e siècle. Donc nous, on a plutôt procédé à une dévégétalisation, puis un renettoyage, une remise au jour des structures, des murs, etc. On est arrivé sur les premiers niveaux, là où s'étaient arrêtés nos prédécesseurs du 19e, et on est descendu en dessous. Et c'est là qu'on a fait la découverte d'autres bâtiments, également gallo-romains, et plus anciens d'un enclos proto-historique, avec première occupation de la fin du 4e avant notre ère. On a toute l'occupation qui remonte jusqu'à la période antique. Depuis à peu près 4-5 ans maintenant, on fouille l'intérieur de l'enclos gallo-romain. Donc il faut imaginer que c'est une parcelle qui est délimitée par un fossé, qui est creusé directement dans le sol, à l'intérieur duquel on a des structures qui sont plus petites, ce qu'on appelle nous des trous de poteaux. En réalité, c'est les fosses d'implantation des poteaux, parce qu'il n'y a pas 36 manières de planter un poteau, il y en a à peu près deux. En gros, soit on le pose, on tape dessus, il s'enfonce, soit on fait un pré-trou en quelque sorte, on le dresse, on le cale, et en fait c'est ça qu'on retrouve. Parce que les structures proto-historiques, en fait, c'est des structures en creux, c'est des structures qui sont bâties en matériaux périssables. Les maisons, etc., en réalité, c'est des structures boisées. Donc on a des poteaux en bois, on a du clayonnage, on a du torchis, etc. Donc on ne retrouve que les empreintes que ça a laissées dans le sol.
Autour de nous, on voit énormément de pierres. C'est des pierres que vous avez sorties du chantier ?
Oui, parce que quand on est arrivé, alors c'est nous qui les avons rangées, c'est pas une muraille ni quoi que ce soit. Nous, on appelle ça des mastabas. On les range correctement parce que ça nous permet de les compter, d'avoir le volume réel de ce qu'on a sorti en pierre. C'est pour envisager en fait la restauration de la villa. La villa est construite en granit avec des moellons de 10 par 10, en fait ils sont calibrés. Et donc plutôt que d'aller en chercher ailleurs, on les a déjà sur place. Donc nous on les récupère, on les stocke, on les sort du tas de terre. Et c'est la première chose qu'on a fait d'ailleurs en 2014, quand on est arrivé, il y avait les déchets, en fait, il y avait encore les remblais de la fouille du 19e qui étaient au milieu de la cour de la villa. Et donc les quatre premiers mastabas, en réalité, c'est ça, c'est le tri des cailloux qui constituaient les murs de la villa.
Et du coup, vous comptez réhabiliter cette villa ?
Le projet de départ, c'est ça, on devait venir 3 ans. On a restauré les thermes, et comme ça fonctionne avec les thermes, le but final, oui, c'est... Euh, C'est de les restaurer en partie. Alors après, le projet, c'est pas moi qui décide, hein. Ça se discute entre spécialistes et Jean-Charles. Mais le but, oui, c'est de stabiliser au moins les fondations qu'on a, et puis après les permettre une visite pour le public. Alors c'est plus facile quand on a une image sous les yeux. Oui. En fait, sous la villa, on a d'autres bâtiments antiques, donc un petit peu plus anciens. La villa, en gros, elle est 2e siècle de notre ère. Les bâtiments qui sont en dessous, ils sont plutôt transition premier avant, premier après. Et en fait, encore en dessous, on a un enclos. Et en fait, l'enclos, il occupe l'intégralité de la parcelle. Donc là, aujourd'hui, on voit plus trop une des parties de l'enclos, parce qu'on est obligé de gérer nos tas de terre. Donc on a un tas de terre qui est dessus, très concrètement. On a la villa qui est dessus, et on a juste une petite partie qui est encore visible et qui est en cours de fouille, hein, donc avec tous les bénévoles qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Oui, c'est toujours mieux de venir voir, en fait, hein, ouais, ça sera plus parlant. Ça sera plus facile.
Et du coup, on peut voir plein de petites banderoles de signalisation. Qu'est-ce que ça représente concrètement?
Ah, alors ça, c'est pour les journées européennes de l'archéologie, donc c'est ce week-end, donc c'est aujourd'hui, demain et après-demain. En fait, le site est ouvert avec les archéologues, donc les bénévoles qui sont ici, et qui font des visites à qui veut et à qui se présente surtout. Et donc la rue balise qu'on a là, c'est pour délimiter un cheminement, parce qu'il ne faut pas marcher partout sur un site archéologique. Mmh. Et tous les autres que vous voyez au sol attachés autour des clous, en fait, c'est nos clous de coupe qui nous permettent de dessiner tout ce qu'on fouille. Donc à chaque, en gros, ça marche par paire, et à chaque fois c'est un trou de poteau. Voilà, donc il y en a un petit peu.
Tous les archéologues qui sont là sont bénévoles.
Alors, donc Jean-Charles, lui c'est le chef de chantier, c'est le responsable de la fouille. Lui il est à la retraite, donc c'est un ancien professionnel de l'archéologie. Moi je suis également son adjoint, je suis embauché par le département, et sinon oui, tous les autres ce sont des bénévoles, donc pour la plupart des étudiants en archéologie, en histoire. Il y en a même une qui est en école d'art. Et on a une autre retraitée qui vient bénévolement, qui fait partie d'une association, le CFRA. Donc voilà, ils sont plusieurs. Aujourd'hui, elle est toute seule, mais habituellement, ils sont plusieurs.
D'accord. Comment on fait si on veut venir aider? Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part?
Alors oui, il faut s'inscrire avant le début de la fouille. Nous, on a commencé le 22 mai et on finit la semaine prochaine, donc le 23 juin. Et en fait, on peut trouver la liste de tous les chantiers qui sont ouverts aux bénévoles en cherchant sur Google « chantier de fouilles archéologiques bénévoles ». Et on va tomber sur le site du ministère de la Culture. Et en fait, on a toute la liste en France des chantiers qui sont ouverts aux bénévolat. On a été complet très rapidement, mais en fait, il faut s'y prendre relativement tôt quand même.
D'accord. Et du coup, là, aujourd'hui, on en est à où dans la rénovation, on va dire, de cette villa?
La rénovation, elle n'a pas débuté. on finit de fouiller. Alors là, c'est l'avant-dernière année. L'année prochaine, ce sera la dernière. On aura en partie rebouché ce que vous voyez là aujourd'hui. La seule chose qui va rester visible, ce sera la villa elle-même. Il y aura un projet de restauration. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va débuter. On va garder également le petit temple qui est à l'entrée du champ, donc ça c'est la nouveauté de cette année. C'était connu hein, dès le 19e siècle, ils l'avaient vu. Mais voilà, on l'a remis au jour cette année, on l'a en partie dessiné et puis on le fouillera l'année prochaine.
C'est quoi cette histoire de petit temple?
C'est à l'entrée du champ, par là où vous êtes arrivé. En fait, il y a un petit bâtiment en pierre là, donc qui est rectangulaire, qui se divise en deux, donc avec Naos, Pronaos, et en fait c'est un temple privé.
Qui va avec la construction de la villa.
Qui fonctionne avec la phase de la villa, les thermes et l'autre petit bâtiment qui est complètement à raser, là, qui est juste en face du petit barnum blanc, là, qu'on pense être la maison du Villicus, donc le gestionnaire de la villa quand le patron n'est pas là.
D'accord. Et comment vous faites du coup pour, entre guillemets, comprendre quel endroit correspond à quel bâtiment?
Ah bah ça c'est bien toute la difficulté et notre travail, c'est en fait c'est comme si on avait toutes les phases de l'histoire les unes sur les autres, c'est-à-dire que là on a toute l'occupation de la proto-histoire jusqu'à la période romaine, et même on a quelques indices d'occupation médiévale, donc qui sont très ténus et relativement rares. Et bah, le but du jeu, c'est de démêler tout ça donc, bah, par comparaison, par analyse de la stratigraphie. Donc on fait des analyses un peu basiques, c'est-à-dire que si je pose une bouteille sur une table, la bouteille est arrivée après la table. Donc ça, c'est de la chronologie relative. Voilà. Et en fait, ça, on le voit en faisant des coupes dans toutes nos structures, dans les fossés. Donc qui recoupe qui est venu après, qui s'appuie contre qui, etc. Et donc c'est ça qui nous permet de faire des relations d'antériorité et de postériorité, et donc de démêler au fur et à mesure en fait toutes les structures. Et donc on associe au fur et à mesure du temps une structure à une période, etc. Après on a d'autres moyens de datation, avec le mobilier archéologique qu'on peut retrouver dedans quand on a la chance d'en avoir. Donc ça passe par la céramique, donc la poterie, les meules, les objets métalliques. On a 3 monnaies au total sur le site, hein, ce qui est pas énorme. On a quelques fragments de verre, et puis voilà, c'est l'essentiel pour le...
Okay. Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est la proto-histoire ?
Alors la proto-histoire, c'est ce qui correspond en fait à ce qu'on va appeler plus communément les Gaulois. Okay. En gros l'âge du bronze et l'âge du fer. On parle de proto-histoire parce qu'en fait on a des peuples qui sont de tradition orale comme les Gaulois, donc on a quasiment aucun écrit, mais ils sont connus via les autres civilisations comme les Romains. Donc en fait ils sont contemporains en réalité, mais c'est juste qu'il y en a qui écrivent pas, d'autres qui écrivent. Et en fait voilà, c'est comme ça qu'on parle de ces peuples de proto-histoire.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des problèmes avec ce chantier ?
Des problèmes de réflexion scientifique surtout. Après les difficultés en soi, la plus grosse difficulté, je vous avouerai que c'est la gestion du tas de terre, parce qu'on est dans une parcelle qui est enclose. Autour de nous, on n'a que des haies et puis les parcelles qui sont privées, qui ne nous appartiennent pas. Donc on n'a pas le droit en fait d'aller dedans, même de stocker la terre dedans. On est obligé, enfin vous l'avez vu, hein, de traverser une forêt pour pouvoir accéder au chantier par un petit chemin. Donc c'est souvent difficile d'évacuer la terre. Et puis en fait, comme on va reboucher une partie, parce que le but c'est quand même de restaurer la villa, et ce qu'on fouille en dessous c'est de la recherche pure, hein, ça ne sera pas présenté au public. C'est toujours très compliqué hein, de mettre en valeur des structures en creux, ça demande un effort d'imagination et puis des moyens d'entretien qui sont plus importants que des maçonneries. Non, la principale difficulté, ouais, c'est la gestion du tas de terre. Enfin, quand on voit la taille qu'il fait, voilà. Et puis même des cailloux, voilà, faut les stocker ici ou là. On a été obligé d'en déplacer un cette année. Mm-hmm. Donc le plus gros qui est là-bas, en réalité, on l'avait mal positionné dès le départ. Hein, il était sur le temple, donc en partie sur le temple, pas totalement. On a été obligé de le déplacer pour pouvoir accéder au temple dans son entièreté.
Du coup, la partie qui est ouverte, là, c'est, vous savez que c'est, y a rien autour.
Ah bah là, la partie qui est ouverte, il y a, en fait, on a l'enclos proto-historique dans la parcelle. D'un côté, on est dans la parcelle du voisin, on ne sait pas ce qu'il y a, puis on ne va pas aller voir cette année. Pareil, des autres côtés, on est chez des privés, puis après, en fait, on a une pente qui est relativement importante entre le haut et le bas du champ. Mmh. On est entre 6 et 8 mètres d'écart en termes d'altitude. Là, on est sur une espèce de replat, donc c'est là où ils viennent s'installer. C'est plus facile de s'installer sur quelque chose qui est relativement plat que sur un truc qui est complètement pentu. Donc non, en bas, là-bas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, mais bon, le seul moyen de savoir, c'est d'aller voir. Mais on va se limiter à la parcelle qu'on a, déjà 5000 m², c'est déjà bien.
Et du coup, le tas de terre, là, vous allez vraiment tout reboucher après ?
Oui, en fait, on fait... Enfin, fouiller, c'est détruire, donc ce qu'on fait, c'est de la sauvegarde par l'étude, en quelque sorte. Donc on photographie tout, on enregistre tout, on fouille tout, on prélève tout ce qu'on peut prélever voilà, pour faire des analyses, que ce soit C14 ou autre. Et après, ça va être rebouché pour mettre en valeur la villa, qui est le but premier hein, de notre venue ici.
Okay.
Et du coup, vous avez dit que l'année prochaine, c'est la dernière année où vous creusez. Et quand est-ce que vous commencerez du coup à la villa, le travail sur la villa?
Bah alors nous, on est archéologues, c'est-à-dire que nous, notre programme de recherche, c'est juste fouiller. La restauration, ça ne nous appartient plus, elle a été inscrite au monument historique, donc après, c'est dans leurs mains. Voilà, c'est... Donc on aura peut-être notre mot à dire sur les méthodes qui seront employées. Après, les travaux eux-mêmes, ce n'est pas moi qui vais les faire, enfin, ce n'est pas nous qui allons les faire, ce n'est pas les archéologues qui vont faire, ça sera des architectes. ABF ou autres qui s'en occuperont.
Et du coup là, on voit il commence à pleuvoir. Est-ce que ça peut endommager le site ou pas?
Alors il commence à pleuvoir. Je vous avoue que vu la météo qu'on a eue ces derniers temps, c'est plutôt une bonne chose. Donc non, ça va pas endommager. Au contraire, je pense qu'une petite pluie là comme on a en ce moment, c'est bénéfique. Ça va nous permettre de raviver un petit peu les couleurs là, qui sont sous la poussière, et donc on a une meilleure lecture du terrain.
Avec un terrain
plus humide. Ouais, ça va être plus humide, les structures vont ressortir, parce qu'en fait ce qu'on note c'est toutes les anomalies de terrain. On a le terrain qui est naturel, bon, quand c'est le rocher c'est assez facile à voir, mais quand on arrive sur l'altération du schiste justement, bah, là ça devient un peu plus compliqué. Et donc ouais, les différences de couleurs c'est beaucoup plus simple à voir quand c'est humide que quand c'est sec.
Et du coup les différences de couleurs c'est pour détailler ce que vous trouvez de la terre, ça?
Bah en fait c'est assez simple, c'est-à-dire quand on creuse, on extrait de la matière. Ils ne vivaient pas sur le caillou hein, les gars, donc en fait il faut restituer à peu près 60 cm de terre végétale. Et quand on rebouche en fait la structure, en fait on a remis une partie de la terre végétale et de ce qu'on a extrait à l'intérieur. Donc ça s'est oxydé, on a eu de la vie hein, organique, des racines, des rongeurs, tout ce qu'on peut avoir dans le sous-sol. Et donc en fait on a une différence de voilà, c'est un peu plus organique que le reste autour, en fait, que l'encaissant qui est le substrat un peu jaune-gris. Là.
Et du coup le barnum là qui transporte, c'est pour protéger quelque chose?
C'est pour faire de l'ombre pour la photo. Malgré un ciel couvert, en fait j'aime pas les ombres portées sur les photos, donc c'est juste une exigence de ma part. C'est purement esthétique.
Cuté avec Jean-Charles Aramon, le responsable du chantier depuis son commencement en 2013 et même après sa retraite.
Je m'appelle Jean-Charles Aramon, je suis responsable du chantier ici depuis le début, depuis 2013, et j'étais aussi responsable de la fouille des thermes que nous avons effectuée en 2008.
Alors comment ça s'est passé du coup de passer des thermes à ici à la villa?
Alors c'était en fonction du rachat des terrains, parce qu'ici nous étions sur des propriétés privées, et effectivement on met en place des fouilles programmées à condition qu'elles appartiennent, enfin que les terrains appartiennent à des collectivités. Les thermes ont été rachetés en 2007 par le conseil départemental. Pour aménager les bords de l'Audé. Donc on a commencé par les thermes. Et la mairie a racheté le terrain ici en 2011. Donc le temps de mettre l'opération en place, on a lancé les diagnostics en 2013. Et puis bon, ce qu'a dit mon Johan Dieu tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis on est parti en fouille.
Et du coup, comment ça s'est passé l'évolution des fouilles sur le terrain de la villa?
Alors on a commencé, notre premier programme, c'était il faut savoir que la villa était déjà fouillée, hein. Donc c'était de remettre en valeur les vestiges de la villa dans période romaine. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait des superpositions d'occupation dès les deux premières années de la première triannuelle. Donc au fur et à mesure de nos fouilles autour de la villa, on a étendu, et puis c'est ce que vous avez actuellement, c'est-à-dire que toute la parcelle a été occupée par les Gaulois, hein, depuis le 4e siècle avant.
D'accord. Et du coup, on voit ici que vous avez creusé un trou pour fouiller. Et vous fouillez quoi exactement ici dans ce trou?
Alors ici, on est à l'intérieur de l'enclos gaulois. Donc ici, c'est occupé par des bâtiments qui sont à l'opposé des bâtiments romains qui sont bâtis en petits moellons. Hein. Mm-hmm. Ici, on n'a que des bâtiments aux ossatures boisées. Donc ce que vous voyez là, on fouille, ce sont les trous de poteaux, les fosses d'implantation de poteaux, les fossés délimitants ou des haies, hein, des fossés ou des haies, des palissades, voilà. Donc c'est un grand puzzle. Et vu le substrat ici, puisqu'on est dans des filons de schiste affleurant, on est obligé de tout nettoyer manuellement.
D'accord. Et du coup, Est-ce que vous avez fouillé également la villa ou alors vous en avez pas occupé?
Alors la villa, elle a été fouillée par monsieur de Marala, donc qui était le propriétaire du château du Pérennou et propriétaire du terrain, qui était aussi président de la société archéologique du Finistère. Et donc eux, quand ils ont fouillé la villa, ils ont traversé, on a les écrits, ils ont traversé tous les niveaux, ils sont arrivés jusqu'à la base des fondations. Donc nous, au niveau de la villa, à part renettoyer, abattre les arbres, refaire des levées, photogrammétrie, enfin avec voilà, des techniques modernes, on n'avait aucun vestige archéologique jusqu'à la base de leur fouille à eux. Après, on en avait au-dessous, parce qu'eux, ils ne sont pas allés chercher plus bas.
Et apparemment, du coup, il y a déjà eu des fouilles qui se sont déroulées ici il y a très longtemps. Est-ce que ça vous a gêné dans vos fouilles à vous?
Alors, c'est toujours un peu particulier pour un archéologue de passer derrière d'autres archéologues. Oui, ici, que ce soit ici ou au terme, ici, ils disent qu'ils ont bien traversé tous les sols, ils ont sorti tout ce qu'il y avait. Ils ont vidé toute la maison et son environnement immédiat de tous les vestiges archéologiques qu'il y avait. Bon, c'est une contrainte, hein, il nous manque tout un tas d'informations. Par contre, l'avantage, c'est que comme c'était chez lui, ils ont conservé les murs. Mmh. Et c'est assez rare d'avoir une élévation comme ça pour des bâtiments antiques. Mmh. Parce qu'en général, les moellons sont récupérés au fur et à mesure des périodes. Ici, comme on était dans l'enceinte du château, ils n'ont pas trop touché. Il n'y a pas eu de pillage. On a calculé qu'il nous manque à peu près entre 80 et 1,20 m d'élévation par rapport à quand ils ont fouillé, c'est-à-dire depuis 1833-34. Mmh. Mais ça, c'est l'érosion naturelle, et puis c'est les arbres, les racines. C'est pour ça qu'on a commencé par couper tous les arbres, parce que ça faisait... La villa était un petit bosquet comme celui qu'on a derrière. Okay.
Et du coup, vous êtes à la retraite, mais vu que vous étiez chargé de projet, vous avez décidé de continuer.
Voilà, mais en archéologie, bon, on a notre métier, mais il y a aussi des gens voilà, qui font ça aussi bénévolement. Alors, pour pouvoir faire des fouilles et diriger des fouilles, il faut être reconnu, il faut avoir des capacités et des connaissances. Mais voilà, la retraite, c'est une étape dans le travail, mais sur un site comme ça, bien sûr, on finit, voilà, on a commencé il y a 10 ans, moi je vais finir l'année prochaine, et ensuite il y a aussi la phase publication qui est très importante. Et ici, si on fait des fouilles programmées, c'est aussi pour mettre en valeur, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect des choses. Les termes ont été mis en valeur en 2011, le but ici c'est de mettre la villa et le petit temple en valeur aussi, pour que les gens puissent avoir un ensemble cohérent et complet de la vie à l'époque romaine.
Et comment ça se passe du coup la publication, pardon?
Alors la publication, chaque année, quand on fait des fouilles, on fait des rapports. Hein. Les rapports sont remis au service régional de l'archéologie, ils passent en commission. Et la particularité de la Bretagne, c'est que tous les rapports sont mis en ligne une fois qu'ils ont été validés. Hein, donc sur le site du ministère de la Culture et de la DRAC et du SRA Bretagne. Et ensuite, avec tous les éléments que nous avons, nous faisons une monographie, parce qu'ici, ça justifie une monographie scientifique. Mais c'est des publications à la fois scientifiques, et puis en même temps, on fait aussi des publications plus grand public, parce que c'est une fois la mise en valeur de ces vestiges ici, il n'y aura pas de gardien, il n'y a pas de maison d'interprétation. Le principe de la mise en valeur, c'est qu'avec des panneaux, les gens, comme on est dans l'environnement de l'Audé, avec beaucoup, énormément de chemins, de randonnées, c'est que les gens puissent se promener et visiter avec un parcours cohérent, visiter les sites tout seul, en ayant les informations nécessaires au cours de leur parcours.
Pour finir, j'ai parlé avec un bénévole venu participer à la fouille.
Bon, je m'appelle Guénolé Gallo, j'ai 20 ans, je suis en licence 2 d'archéologie à la fac de Nantes.
Alors comment est-ce que du coup tu as commencé à travailler ici?
Moi j'ai fait mon stage de 3e au conseil départemental du Finistère qui est situé au Fou. Et là-bas j'ai rencontré un archéologue qui s'appelle Ronan Bourgaud. Et ensuite en seconde j'avais un autre stage de découverte à faire avec le lycée. Et donc j'ai rappelé cet archéologue que j'avais rencontré en 3e et il m'a proposé de venir ici au Pérennou. Où là j'ai rencontré Jean-Charles, Johan et tous les autres fouilleurs. Et du coup depuis tous les ans je reviens fouiller ici l'été, et donc là c'est la 5e année que je reviens.
Donc c'était déjà là au début des fouilles en fait?
Non, pas au début, je suis arrivé il y a 5 ans, les fouilles ont commencé en 2013, ouais. C'était un peu plus tôt, mais ouais ça fait quand même la moitié.
Bon. Et du coup toi qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe de creuser ici pour faire des fouilles?
Du coup ici tout est basé vachement sur les couleurs en fait, mm-hmm. On regarde énormément les couleurs de terre, En fait, le but, c'est de nettoyer le site. Parce que quand la terre sèche et devient de la poussière toute grise, ça cache en fait toutes les couleurs. D'accord. Et nous, on est vachement basé sur les couleurs pour repérer les fossés, les structures en creux en fait, qui sont remplies par des couleurs de terre plus sombres. Donc la grosse majorité du travail, c'est nettoyer le chantier pour voir tout le temps les couleurs de terre et pouvoir voir les structures.
Ça signifie quoi du coup les différentes couleurs de terre ?
Bah en fait, quand ils ont creusé. Ils ont retiré toute la terre géologique et même le substrat qu'il y avait. Et en fait, au fur et à mesure des années, quand ça se rebouche avec des feuilles mortes, etc. Donc de la terre végétale qui est beaucoup plus foncée en fait que le sol géologique. Okay. Qui lui, ici, on est sur un sol schisteux. Et du coup, c'est à moitié du sable, donc c'est très jaune comme on peut le voir. Mm-hmm. Et donc, c'est la différence de couleur de terre, elle vient de là. Elle vient du sol végétal.
Donc, plus c'est sombre, plus vous avez creusé.
Plus c'est sombre, plus ça, c'est sûrement une structure qui a été creusée par les Gaulois, par tous ceux qui ont habité ici pendant l'histoire.
Il faut faire très attention du coup, c'est vraiment presque de la déduction.
Bah oui, tout à fait. Oui. Bah, du coup, nous, on est là parfois, on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber. Enfin, même on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc quand on nettoie, il faut être prêt un peu à tout, être bien attentif aux couleurs, etc. Et puis... Et voilà, être bien observé, quoi.
Et vous avez des doutes parfois ? Ou quand vous voyez quelque chose, vous devinez très vite ?
Non, on a souvent des doutes. Même tout à l'heure, on pensait avoir des trous de poteaux. Et on a vérifié pour voir si en effet ils étaient là. Et en réalité, non. C'était juste qu'on n'était pas assez descendu. Et en dessous, il y avait le sol géologique tout simple. Donc, non, on a des doutes, c'est normal. Il faut juste vérifier, quoi. Prendre le temps de vérifier pour confirmer ces hypothèses, quoi.